Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette nouvelle conférence de notre naissance, notre première table ronde. Ce soir, une table ronde consacrée au patrimoine et au développement durable, ou plus précisément, le patrimoine et comment le concilier au confort moderne. Comment concilier le confort moderne et le respect du bâti ancien ? Est-il possible de vivre aussi confortablement dans un logement ancien que dans un logement neuf ? Est-il possible de soumettre le bâti ancien aux mêmes règles, aux mêmes normes, notamment en matière de développement durable et plus spécifiquement au niveau des contraintes pressantes d'économie d'énergie ? Faut-il abandonner ces tentatives ? Faire des compromis ? Appliquer strictement les règles au risque de dénaturer notre patrimoine ? Le bâti ancien est-il homogène ? Ses performances énergétiques sont-elles si mauvaises ? Sont-elles perfectibles ? Et si oui, comment ? Voici quelques-unes des questions qui agitent en ce moment le milieu de la restauration du bâti ancien. Car il s'agit là d'un enjeu d'avenir pour la conservation du patrimoine, puisque pour ne pas muséifier les centres historiques, il faut que les immeubles anciens soient habités. Et pour cela, ils doivent répondre aux exigences nouvelles. D'ailleurs, récemment, plusieurs colloques ont été consacrés à ces thématiques. Patrimoine et développement durable, organisé par le patrimoine rhône-alpin à Lyon, mais également par la commission du Vieux Paris. Économie d'énergie dans le patrimoine bâti à Grenoble, avec la rédaction d'un cahier technique. La réhabilitation du patrimoine pour développer durablement la ville. Conférence organisée au Salon international du patrimoine au Carrousel du Louvre. Plus récemment, une agence nantaise a réalisé un diagnostic sur les performances énergétiques à Poitiers. D'ailleurs, tous ces documents, toutes les publications liées à ces colloques ont été publiées également sur le site de notre naissance. Vous pouvez aller consulter toute cette documentation sur le site de l'association. Mais au-delà de la simple question du confort, se trouvent aussi les notions d'habitat décent, de salubrité et de santé, de lutte contre la précarité énergétique, dont on parle de plus en plus. Précarité énergétique aggravée par l'expression que l'on a tous entendue avec ces vieilles maisons inchauffables, difficile de faire face à ces factures d'énergie. Dans le prolongement de la mise à jour de sa charte de qualité, notre naissance lance ce soir la réflexion commune que nous devons mener ensemble, à l'exemple de ce qui avait été fait sur les ravalements de façade, mais cette fois appliqué aux réhabilitations intérieures. Pour tous gagner en qualité, dans le respect de notre patrimoine, nous recevons ce soir deux architectes, René-Jean Moinard, architecte à Nantes, qui va nous faire part de ses expériences et de ses réflexions sur le domaine, et également Jean-Pierre Lecomte, architecte du patrimoine à Nantes. Ce soir, notre volonté est de lancer cette réflexion commune que nous pourrons prolonger ensuite par un débat ce soir, mais également par la mise en place de groupes de réflexion. René-Jean, je te laisse commencer.
Merci. On avait donc décidé d'aborder la notion de confort ce soir dans le bâti ancien. Et pour que la réflexion au départ de ce travail soit la plus large possible, j'ai voulu évoquer en fait différents critères de confort sur lesquels aujourd'hui on peut travailler. On peut évoquer d'abord la notion de confort acoustique, d'isolation phonique dans le bâti ancien. Le bâti ancien qui recèle dans bien des cas des avantages. On a tous l'exemple de bâtiments avec des murs en pierre, des planchers bois recouverts de mortier, de terre cuite, éventuellement de gabion avec des pierres entre les solives, etc., qui assurent une isolation phonique entre les appartements, entre les locaux, tout à fait performante. Mais on a aussi l'exemple de faiblesses dans beaucoup d'immeubles anciens où l'isolation acoustique entre les différents locaux n'est pas forcément très bien assurée. Donc c'est une des notions de confort sur lequel on peut travailler dans le bâti ancien pour améliorer les performances quand il y a une défaillance. Le deuxième critère de confort que l'on peut évoquer, c'est la ventilation et la notion de qualité de l'air. Là aussi, bâti ancien, on connaît tous les appartements où finalement la ventilation est laissée à l'appréciation des fenêtres, qu'elles soient jointives ou pas, ce qui fonctionnait finalement à un certain moment, puisque les anciennes menuiseries en général n'avaient pas de grosses performances de ce côté-là. Mais ça pouvait fonctionner à partir du moment où on ne cherchait pas trop à étancher à droite, à gauche, etc. Par contre, si on commence à fermer, à changer les fenêtres, à étancher partout, on s'aperçoit qu'on peut générer plus de problèmes qu'on en règle, et qu'à ce moment-là, ce qui était assuré par un défaut d'étanchéité des fenêtres, il va falloir le compenser par une réelle ventilation. Et il faut quand même savoir que grosso modo, on doit renouveler entre 4 et 5 fois le volume d'air d'un appartement par jour. On peut à ce moment-là se poser la question de pourquoi renouveler à cette vitesse-là et surtout pourquoi rejeter de l'air à 20 degrés dehors. Donc il y a un aspect à la fois sanitaire puisqu'on doit renouveler l'air, mais un aspect économique aussi, de telle sorte que l'on ne soit pas obligé de recréer des nouvelles ventilations forcées, mais en rejetant un air chaud à l'extérieur sans chercher à récupérer les calories de ce renouvellement d'air. On peut évoquer bien évidemment l'isolation, c'est ce qui est souvent mis en avant, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser non plus sur la qualité de l'isolation du bâti ancien. D'abord parce qu'on s'aperçoit que le bâti ancien n'est pas aussi peu performant que du bâti plus récent. Pour avoir quelques repères, on considère que le bâti avant 1948 avait un niveau de consommation de 200 kWh mètre carré an. Quand on parle de la reconstruction, on est monté à 300, c'est-à-dire les bâtiments d'après-guerre, etc. Finalement, on a perdu 50% de la qualité d'isolation des bâtiments par rapport à ce que l'on faisait précédemment. À partir de 1975, on arrive à des niveaux de consommation de 170 kW, c'est-à-dire qu'on est revenu pratiquement dans les années 75 à ce que l'on savait faire avant-guerre. Il faut quand même avoir quelques chiffres actuels, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de bâtiments BBC, on est à 50 kW, c'est-à-dire que par rapport à la reconstruction, on divise par 6. Par rapport aux années 75, on divise par 3. Et ce qui nous attend pour le bâtiment neuf dans 8 ans, puisque c'est 2020, on parle de maisons passives et on est à 15. C'est-à-dire que pour vous donner quand même des ordres de grandeur des niveaux d'isolation du bâti neuf. Je vous cite quand même un exemple que nous avons réalisé sur Paris de bureaux, sur un boulevard haussmannien ou sur un plateau de 400 mètres carrés au rez-de-chaussée, sans avoir touché l'extérieur du bâtiment. On arrive à 37 kW, c'est-à-dire des niveaux de maisons extrêmement performants aujourd'hui dans du bâti 19e. Donc, je crois que c'est important de savoir, d'une, que c'est possible sans détruire le bâti, mais qu'il y a des solutions. Un autre critère qui, pour nous, sera important aussi à évoquer, c'est la qualité des éclairages. Bon, on connaît tous de très beaux appartements avec des hauteurs sous plafond de 4 mètres, des portes-fenêtres de 3,50 mètres, donc une lumière qui rentre très profondément dans le bâti, mais on connaît aussi également des logements dans des cours étroites ou des appartements en lanière, comme on a sur le quai de la Fosse, avec des très grandes profondeurs. Et donc, c'est aussi un critère d'appréciation du confort, je crois, à évoquer dans les appartements. Autre critère, donc on en parlait, qui est un critère économique, mais qui entre en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la qualité de logement ou de bureau ou de commerce, c'est la maîtrise des charges et des coûts de fonctionnement. Donc là, on rejoint évidemment l'obligation d'isoler, l'obligation de ventiler, de telle sorte qu'on puisse offrir un bâti confortable, raisonnable dans ses coûts d'exploitation. Et à partir de là, il faut se dire qu'on est assis Et nous, on l'a rencontré donc sur l'expérience qu'on a faite à Paris. On est assis sur des matelas d'énergie, au bout du compte. On a dans les immeubles des caves qui sont toujours à 12 degrés, grosso modo. Et avec cette température constante, on peut très bien, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires de transfert d'énergie pour aller chercher l'énergie là où elle est et où on ne l'utilise pas, et la transférer là où on en a besoin, dans les appartements, dans les commerces, dans les bureaux. Donc, je crois qu'il faut se dire qu'on a à proximité des possibilités de récupération d'énergie sans aller brûler du fioul, du gaz, avec des émanations de CO2. Il y a, je crois, des choix aujourd'hui techniques possibles de transfert et non pas de production d'énergie, de consommation en tous les cas. Et puis, il faut savoir que de plus en plus, si l'on veut maîtriser donc ces coûts-là, il existe des matériels qui répondent à toutes les fonctions, c'est-à-dire qui assurent la ventilation, qui assurent le chauffage, qui assurent la production d'eau chaude dans des toutes petites machines qui sont grosses comme un ballon d'eau chaude et qui sont en mesure aujourd'hui d'assurer les trois fonctions. Donc des solutions, elles existent. Il existe aussi des isolants, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de 2,5 cm qui ont le même pouvoir isolant qu'un isolant de 18 cm. Et dans le bâti ancien, c'est extrêmement intéressant parce que se pose le problème des encombrements. Il n'est pas question de détruire les espaces et donc il faut trouver des solutions qui s'adaptent à ce bâti-là. Autre critère, celui de l'accessibilité. On sait que les cages d'escalier, par exemple, qui concentrent pratiquement les plus beaux ouvrages de taille de pierre, de ferronnerie, de menuiserie charpente dans les immeubles, ce sont aussi des parties communes qu'il convient de retraiter. Parce que bon, l'accessibilité, entre autres, à toutes les personnes avec les problèmes d'ascenseur se pose. Bon, on a aussi cette notion-là à prendre en compte lorsque l'on traite du bâti ancien et à trouver des solutions, à imaginer des solutions lorsque c'est possible, toujours dans le respect donc du bâtiment sur lequel on travaille. Voilà donc les différents critères qui aujourd'hui me paraissent importants à aborder. Je vous dis confort acoustique, ventilation et qualité de l'air, isolation performante et respirante, parce qu'on a souvent un bâtiment avec des parois qui ne sont pas étanches, donc il faut aussi accompagner, la qualité des éclairages, la maîtrise économique des charges, l'accessibilité. Voilà un certain nombre de critères qui nous paraît nécessaire de prendre en compte aujourd'hui, sachant que nous, le constat qui a été fait aussi, c'est qu'il y a 20 ans, on partait d'un bâti très dégradé au niveau de l'extérieur. Bon, je crois qu'il y a un travail, malgré tout, qui a été fait, qui est considérable, que notre naissance et tous les acteurs ont porté. Mais je crois que lorsque l'on parle de qualité intérieure des appartements, des parties communes, on est un peu au même niveau où on était il y a 20 ans. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il est important aujourd'hui de se pencher dessus. C'est pourquoi on a voulu ouvrir ce débat. Donc voilà, l'idée c'est de profiter de ce bâti ancien avec tous les avantages qu'il comporte, de remédier à certaines faiblesses évidemment, et d'offrir un confort global au même niveau que ce que l'on peut retrouver dans des bâtiments actuels. Voilà l'idée de ce débat et de l'ensemble de ces critères qui nous semblent importants de traiter pour le confort.
Alors avant de lancer le débat à proprement parler, avant de lancer les questions, je souhaitais peut-être demander à Jean-Pierre d'intervenir dès maintenant.
Bon, j'ai un discours un peu plus modérateur que ça. Alors d'abord, nous on est donc architectes du patrimoine, donc quelque part on travaille sur un spectre de bâtiments assez large. J'ai aussi tendance à penser que la notion de bâti ancien est une notion fourre-tout, qui par moments me désoriente, on va dire ça comme ça poliment. Parce que, de fait, on, dans le bâti ancien, on va mettre à la fois la petite maison très modeste, sur un terrain isolé, construite avant la Deuxième Guerre mondiale, et où les gens vont chercher des notions de confort bien évidentes, parce qu'ils vont arriver là-dedans avec une famille, des enfants, etc. Et puis on va mettre dans la même notion des appartements, j'en ai en tête, de 250 mètres carrés, sur les cours, avec 4 mètres de plafond, des fenêtres superbes, de super planchers, etc. Et je ne suis pas sûr non plus que les notions de confort et les attentes de confort soient les mêmes pour ces publics-là, tu vois. Donc, le spectre de ce que je traite dans mon exercice professionnel me fait questionner cette notion de bâti ancien. J'aurais tendance à dire que voilà, un vrai axe de travail, ça serait de dire le bâti ancien, c'est quoi ? Alors, les trucs où on est d'accord, c'est de dire le bâti construit avant les nouvelles normes fonctionne différemment que les bâtis actuels normalisés. Ça, c'est simple. Ensuite, on est tous d'accord pour dire le pire dans le bâti, c'est ce qui a été construit juste après-guerre jusqu'à ce qu'on mette en place les normes, c'est-à-dire dans la période où l'énergie ne coûtait rien du tout, on construisait vite économique et on poussait la chaudière à 28 degrés avec du fioul qui ne coûtait rien ou du charbon qui ne coûtait pas cher et où les problèmes se passaient bien. Et ces bâtiments-là, dès que vous ralentissez les phénomènes de chauffage, vous avez des catastrophes. Bon. Après, on a des bâtiments antérieurs à cette période-là qui fonctionnent un peu différemment parce que les matériaux n'ont pas les mêmes fonctionnements, que ce soit des bâtiments qui ont une certaine inertie thermique, ont des porosités de matériaux qui sont des facteurs positifs, qui sont souvent bons du point de vue conforté, qui ne sont pas si faciles à chauffer souvent, mais où il y a eu aussi des progrès constants sur l'amélioration du chauffage, des cheminées plus réduites, etc. Et à une époque où le chauffage était un vrai problème. Donc quand même, les gens ont essayé d'améliorer le confort. Donc moi, je modulerais, quoi. Voilà, c'est juste, je suis un citoyen conscient, je lis les journaux, je suis relativement documenté, comme tout le monde ici, j'imagine, dans la salle, sur l'augmentation de l'énergie, sur le fait que ça va changer, mais un peu comme provocation, quoi. Mais j'arrêterai là. Je prendrai la phase du début, c'était, peut-on vivre aussi bien dans un bâtiment ancien que dans un immeuble, dans un bâtiment moderne ? Alors, je pose la question en sens inverse, parfois, parce que, par exemple, entendre les petits oiseaux le matin, ça compte dans mon existence, et la maison totalement climatisée, la boîte thermos, j'ai du mal à m'y faire, même si je suis convaincu que du point de vue thermique, c'est vachement bien. Je pondérerai aussi en disant que quand je suis un mauvais citoyen, mais comme j'habite en centre-ville, que j'ai une petite maison construite entre deux guerres, mitoyenne, j'ai fait mes trucs, j'arrive à 170, ce qui n'est pas si mal après tout, et j'ai même pas fait de grosses améliorations sur les menuiseries et ces choses-là, donc je pondérerai beaucoup en disant qu'après il y a façon de vivre aussi qui compte, voilà. Mais par contre, où j'abonde complètement, c'est qu'en effet, comme l'énergie manque, que les gens ont des vraies difficultés par rapport à ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, on ne peut pas être absent d'une réflexion sur des choses simples comme les menuiseries, la porosité à l'air, l'isolation des combles et des mesures comme ça qui sont simples. En gros, ce que je disais, c'est que je pondère les positions techniques qui sont les positions constantes actuelles. En gros, le discours, c'est de nous dire il faut aujourd'hui que le bâti ancien fonctionne avec les mêmes qualités techniques et de confort que le bâti moderne. Moi, je dis, je suis pas sûr parce que je pense que parfois, on pourrait inverser les choses. On a, par exemple, dans le bâti ancien, des qualités d'espace, de volume qu'aucun appartement moderne ne vous offre. On a arrêté de faire des beaux appartements dans les années 30. Quoi. Enfin, j'exagère à peine en disant ça. Et qu'ensuite, une fois qu'on a dit ça, je pense aussi qu'il faut pondérer très fortement cette notion de bâti ancien, qui est une notion fourre-tout, et dans laquelle on met en gros tous les éléments, tous les bâtiments qui ont été construits avant les révolutions techniques, les nouveaux matériaux et les sources d'énergie qu'on utilise de façon abondante depuis pratiquement la guerre, quoi. Et que dans ce bâti ancien, on a des choses totalement hétérogènes, qui vont de bâtis extrêmement médiocres, où la question de la sauvegarde peut complètement se poser, c'est pas parce que c'est ancien que c'est bien. On peut avoir des bâtis tout à fait exceptionnels, où du coup, c'est complètement hors norme, et il faut complètement adapter la réflexion et la pondérer. Et puis, on a un bâti assez standard, enfin, je pense à Nantes, c'est tout ce bâti de petits pavillons, qui est quand même une partie très très importante du tissu de la ville, hein, quand on prend la ville au sens large. Parce qu'il faut aussi se dire que le bâti ancien, ce n'est pas que le centre sauvegardé. Mais si on prend le bâti ancien, vous avez par exemple sur Nantes un bâti pavillonnaire qui est extrêmement abondant, qui fait le bonheur de beaucoup de gens, qui est d'assez mauvaise qualité thermique, qui a plein d'autres avantages, qui est souvent récupéré par des familles et des gens qui ont des exigences de vie normale avec des sanitaires, des modes de vie un peu contemporains. Et là, en effet, à mon avis, les problèmes se posent complètement différemment de l'intervention sur un appartement centre-ville. Voilà. C'était juste la pondération que je voulais faire pour ouvrir le débat.
Enfin, moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il ne faut rien lâcher, en fait, si on veut arriver à un niveau de performance. Et on s'aperçoit quand on travaille avec des ingénieurs, en particulier on travaille avec des ingénieurs suisses, qui sont extrêmement exigeants. Et en fait, il n'y a pas de solution toute faite. On est ici dans un climat où les amplitudes, par exemple, sont bien inférieures à ce qu'elles sont dans l'est de la France. Donc, on n'a pas appliqué les mêmes choses. Mais malgré tout, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher parce que lorsque l'on est dans le bâti ancien, et ça, je suis d'accord avec